Je me lève à 6 heures en pleine forme. Je piaffe d'impatience en attendant que le jour se lève et à 7 heures, je m'en vais. Je roule dans les rues de Bellegarde alors que les voitures ont encore les phares allumés. Et en plus de ça, quand j'arrive à la sortie de la ville, je suis saisie par la fraîcheur. Il y a un petit courant d'air sur le pont, il va faire chaud dans quelques heures. Mais en attendant, j'ai bien fait de prendre des manches longues. L'air me pique les jambes et la gueule aussi, mais je m'en fous. Parce que je suis heureux de me lancer dans l'aventure, le col de l'homme mort. C'est comme un vieux rêve pour moi, un vieux rêve d'il n'y a pas très longtemps, mais un vieux rêve quand même. De 2 ans exactement, du moment où j'ai commencé à faire du vélo sérieusement, j'ai d'abord fait 10 bornes, puis 20, puis de plus en plus loin, jusqu'à faire des virées de 100, 120 km. Et à mon âge, c'était pas gagné. Alain Guiraudy est ce soir notre invité à l'occasion de son nouveau livre intitulé « Rabat l'Aïre ». Et comme chaque soir, nous allons commencer en musique et ce sera Mano Solo, Je marche seul.
Encore une histoire qu'on balance, une histoire qui se déhanche, une histoire qui a pas de chance, une histoire qui a pas de sens, une histoire pire qu'un sale dimanche, une fraction dans les ronces d'un sale monde de France. Ouais, je marche seul. Avec plus personne à qui faire la gueule. Ouais, je marche seul. Avec plus personne à qui faire la gueule. Encore une histoire qui bave, une histoire bien pérave. Une histoire de cave pour un peu on se marave. Une histoire bien pélanche, une histoire qu'on enfonce. Une histoire pleine de ronces. Ouais, je marche seul. Avec plus personne à qui faire la gueule. Ouais, je marche seul. Avec plus personne à qui faire la gueule. Je marche seul, avec plus personne à qui faire la gueule. Ouais, je marche seul, avec plus personne à qui faire la gueule.
Encore une histoire qui crève là sur le trottoir. On se tourne le dos, on crache son dernier glavio. Tous mes amis m'ont dit que c'était moi, mon pire ennemi. Je marche seul, avec plus personne à qui faire la gueule. Ouais, je marche seul, avec plus personne à qui faire la gueule. Ouais, je marche seul, avec plus personne à qui faire la gueule. Avec plus personne à qui faire la gueule. Avec plus personne à qui faire la gueule.
Vous étiez un bon enfant de cœur.
Ah, je pense que oui, j'étais un très bon enfant de cœur, ouais. Non, déjà, j'ai été très volontaire, je me suis battu pour être enfant de cœur, et ça a été comme, enfin, battu.
Pourquoi?
Au sens.
Parce que il a fallu. Le curé voulait pas de vous?
Ouais, il voulait, je crois qu'il voulait pas trop de moi, quoi. Et, enfin, et puis finalement, quand même, j'ai réussi à être un fan de cœur, quoi, et j'adorais ça, et je, ouais, les abbés sacerdotaux, tout ça, ça m'a toujours plu, quoi.
Et l'hostie?
L'hostie, oui. Non, mais tout le rituel, finalement, autour de la religion catholique m'a toujours plu, quoi. Et même si je suis plus catholique, si je suis plus croyant, je continue à beaucoup aimer ça, quoi.
Ben, on y reviendra sur ce thème de la croyance, parce que quand on lit votre dernier ouvrage, on se dit que par moments, ce narrateur qui ressemble beaucoup à vous a des états d'âme, si j'ose dire.
Oui,
il se demande s'il n'aimerait pas de nouveau croire en quelque chose, croire à quelque chose.
Oui, on a toujours envie de. Bon, de toute façon, fondamentalement, tant qu'on est là, on croit toujours à quelque chose, quoi. Enfin, après, la puissance divine, je m'y intéresse plus trop, quoi. Mais effectivement, il y a quand même tout ce cosmos qui reste très mystérieux. Et puis, même s'il n'y a pas de puissance divine, quand même, on a envie de croire à quelque chose, à ne serait-ce que. Peut-être pour se rassurer par rapport à la mort, mais aussi pour savoir ce qu'on fout là tous ensemble, quoi. et vers où peut-être aussi on a envie d'aller, quoi. Voilà. Mais voilà, c'est ça. Je pense que il y a un moment où j'ai décidé de ne plus trop me préoccuper de est-ce qu'il y a un Dieu, est-ce qu'il y a une puissance, un être suprême, quelque chose qui régit tout ce bordel, tout ce hasard, et de me dire bon, en tout cas, bon, peut-être qu'il y a quelque chose qui existe, mais en tout cas, ce qui se passe sur Terre, quand même, ça nous regarde, quoi. Voilà, je pense que ça a été important de me dire ça un moment, quoi. Voilà.
Dans quel paysage êtes-vous né, Alain Guiraudy?
quel paysage, un paysage de bocage à la campagne, dans la campagne aveyronnaise. Voilà.
Le avec... bonheur.
Oui, je crois que quand même il y avait eu une enfance heureuse, ouais.
Et une adolescence plus tourmentée.
C'est un peu là que les ennuis ont commencé, quoi. Oui, effectivement, avec l'adolescence, ouais. Ou la jeunesse, non. En fait, je pense que j'ai tiré mon enfance assez tard, jusqu'à 20, 21 ans, quoi. Puis l'adolescence est allée jusqu'à 35 ans.
Vous étiez encore un enfant à 21 ans?
Ouais, je crois que je suis resté un enfant très longtemps, quoi. Et l'adolescence, oui, je pense que jusqu'à 35 ans, quand même, elle a bien duré jusqu'à 35, ouais.
Donc aujourd'hui, vous avez...
57.
Donc, vous avez en fait 30 ans, quoi.
Ouais, je pense pas encore avoir atteint l'âge adulte, complètement, quoi.
Êtes-vous innocent?
Non, je pense pas être innocent, quoi. Oui, donc à ce sens-là, oui, je dois en avoir fini avec l'enfance, oui.
Non, je parlais de l'innocence par rapport au langage et à la langue que vous inventez déjà depuis pas mal de temps, aussi bien au cinéma, puisque vous êtes cinéaste et cinéaste reconnu, mais aussi en littérature. D'ailleurs, votre rapport à la langue a commencé par la littérature.
En tout cas, c'est par la littérature que j'ai commencé à chercher ma langue à moi, ma musique intérieure, quoi, voilà. Parce que, mais je pense que j'ai très vite abandonné, c'est marrant, au niveau littérature, parce que j'étais un peu sous une grande chape de plomb, quoi. En littérature, on arrive derrière. Je sais pas, je crois qu'il y avait ça. Ouais, on arrive derrière Céline, Proust, Dostoïevski, quoi. Il y a eu du beau monde derrière, quoi. Alors vous me direz,
bah, vous
un cinéma.
Choisissez haut, hein.
Un cinéma, il y a eu Tarkovski, il y a eu Bresson, il y a eu du beau monde aussi, quoi. Mais je sais pas, il me semblait que j'avais un peu plus de place pour trouver ma forme à moi, une forme singulière. Alors qu'en littérature, ça me paraissait très très compliqué. Moi, il m'a fallu 50 ans, quoi, pour vraiment trouver ça, quoi. Et effectivement, arriver aussi peut-être à pas écrire comme un enfant, mais à retrouver pas une innocence non plus, mais à trouver son truc à soi qui ne soit pas pollué par les influences, qui ne soit pas pollué par tout ce qui est extérieur, quoi. Trouver un peu sa propre pureté. Sa singularité. En fait, ouais, j'aime bien l'idée d'avoir mis 50 ans à trouver ma singularité, quoi. Ma voix, moi, j'aime bien l'idée de la musique intérieure, ouais.
Votre narrateur de votre nouveau livre pense tout le temps. Est-ce aussi votre cas?
Oui, je pense que c'est vraiment mon cas. Mais je pense que c'est le cas d'à peu près tous les êtres humains, hein, cette idée de toujours se demander qu'est-ce qu'il est bon de faire ou de ne pas faire, d'être toujours en train de confronter ce qu'on aimerait faire à ce qu'on est obligé de faire, l'idéal aux contingences de la réalité. Donc, effectivement, la différence, c'est qu'il les expose et puis il étire beaucoup le fil, quoi. Il est toujours en train, mon personnage est toujours en train de... Il est comme un peu ces arbres oui et non, quoi. C'est-à-dire, c'est très, comment dirais-je, ça se ramifie de partout, quoi, la pensée. C'est-à-dire, il y a si je vais là, qu'est-ce que ça donne si je suis cette piste-là, puis il revient en arrière et reprend une autre piste. Enfin, je pense que quand, finalement, une pensée, c'est bien ça aussi, non? C'est essayer une pensée. Le déroulement d'une pensée, c'est essayer d'englober toutes les possibilités à partir d'une proposition. Non, voilà. Après, c'est vrai que quand on l'écrit et qu'on déroule tout ça, effectivement, ça fait beaucoup, beaucoup de pensées, quoi. Ça fait une tête bien occupée.
Votre narrateur n'a aucune règle, sauf celle de sa véritable loi, et sa loi, c'est son désir à lui.
Ah, je pense que si. Non, je trouve qu'il a des règles, quoi. Effectivement, après, c'est ouais. Je pense que je fais un peu des films et donc des romans aussi pour bâtir un monde qui s'accorde à mes désirs quand même, quoi. Je pense être beaucoup là-dedans, quoi. J'invente ma vie, j'invente mon réel, quoi. Et il est porté par son désir, mais il a quand même toujours, il a quand même sur moi, il a quand même quelqu'un qui veille là-dessus. Il y a quand même quelque chose à l'intérieur de lui qui veille à savoir si c'est bien ou si c'est pas bien ce qu'il est en train de faire, quoi. Et quand même, il se pose quand même beaucoup de questions de morale. Non, il se les pose, ces questions, il se les pose. Même oui, il se les pose, ces questions-là. Après, il continue à vivre en ayant un crime sur la conscience, mais il se pose quand même la question de qu'est-ce qui fait qu'il s'est retrouvé à tuer un mec, quoi. Voilà. Et est-ce qu'il mérite de vivre? Est-ce qu'il mérite d'avoir des projets avec un meurtre sur la conscience? Donc, je pense qu'il se pose des questions. Après, il continue à vivre. C'est vrai qu'il ne va pas se dénoncer lui-même à la police. Je pense qu'il a à peu près bien, à peu près, oui, il a à peu près raison, quoi. Je sais pas, je trouve étonnant qu'il y ait autant d'assassins d'ailleurs qui aillent se dénoncer, ou même des gens qui ne sont pas assassins, paraît-il, qui vont se dénoncer eux-mêmes de crimes qu'ils n'ont pas commis à la gendarmerie ou à la police. Non, après, effectivement, je vous l'accorde, lui-même est beaucoup porté par ses désirs. Après, ses désirs qui ne sont pas très si clairs que ça non plus, quoi. Je veux dire, il sait pas trop non plus de où il en est par rapport à ça, quoi. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Qu'est-ce que c'est qu'aimer quelqu'un? Enfin, d'ailleurs, il y a toute une réflexion autour de ça, de qu'est-ce que c'est que qu'aimer quelqu'un, et est-ce que je suis bien sûr d'aimer un tel ou d'aimer une telle? Ouais, tout ça, il n'est pas très clair, quoi. D'où les interrogations, quoi. En fait, on se pose des questions parce que rien n'est clair, non?
Bah, d'où aussi le fait que le narrateur aime beaucoup de personnes et qu'il est un peu collectionneur.
Oui, oui.
L'écriture, c'est une question de rythme, c'est une question de tempo, c'est une question de ponctuation, c'est une question d'enchaînement de circonstances, et il faut tenir le rythme. Oui. Et on a l'impression avec vous, quand on vous lit, parce que le bouquin est très gros, hein, je crois qu'il fait plus de 1000 pages, qu'on est à l'intérieur de la peau de votre narrateur, et c'est peut-être un leurre, ou c'est peut-être un de vos buts en tant qu'écrivain, Alain Guiraudy, tant on a l'impression qu'on est dans la tête du narrateur et que, oui, et que rien ne doit nous échapper de ce qui lui arrive à lui.
Ah oui. Ben, tout effectivement est dans la tête du narrateur, y compris plein de suppositions, de choses qui ne sont pas forcément celles qui ne sont pas forcément celles qui se passent réellement, mais que lui s'imagine pouvant être se passer comme ça, quoi. Oui, je pense effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont complètement hors champ, beaucoup de péripéties, de déroulements, de petites d'histoires parallèles ou d'histoires qui le touchent très près, qui sont complètement. Enfin, après, je sais pas si on peut parler de hors champ en littérature.
C'est un terme cinématographique,
en tout cas. Mais bon, j'aime bien parler de hors-champ, quoi. Il y a beaucoup d'histoires comme ça qu'on ne suit pas de A à Z et qu'on suit juste par, effectivement, ses supputations à lui ou ce qu'il imagine qu'ont pu être ces histoires. Et non, je reviens, parce qu'effectivement, moi, c'est là que je parle de la... J'ai l'impression que c'est là que j'ai trouvé ma forme à moi, mon style, ma langue, quoi. C'est effectivement par ce biais, finalement, je me suis dit, bon, je suis quelqu'un qui doute beaucoup dans la vie. Je me suis dit, pourquoi pas faire de ce doute un terrain de jeu, mais un terrain d'action, quoi, en termes de d'écriture, quoi, et de livrer, effectivement, de faire fonctionner un roman par ça, de le faire avancer uniquement par les doutes intérieurs d'un homme, quoi. Et donc ça va avec la langue, ça va effectivement avec un langage parlé ou un langage pensé, quoi.
Ça va aussi avec l'occitan, parce que comment vous le prononcez, votre titre?
Alors ça se dit Rabalaire, voilà. Alors, c'est un titre occitan, effectivement. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui a dit que si on avait inventé un espéranto des langues latines, ça serait l'occitan. Voilà. Qui est vraiment qui rejoint un peu toutes les langues latines.
Mais on sent bien à l'intérieur de votre écriture, Alain Guiraudy, qu'il y a comme une recherche d'une langue autrefois perdue et que vous exhumez de temps en temps.
Oui, oh, je pense que déjà il y a beaucoup de nostalgie. Enfin, déjà vous avez attaqué avec l'enfance, quoi, l'émission. Effectivement, il y a beaucoup de nostalgie. C'est vrai que ça baigne beaucoup dans les mondes de mon enfance, quoi, ou même dans des personnages. Je pense qu'il y a des personnages qui sont très très liés à mon enfance, quoi. Et effectivement, l'occitan, oui, c'est un peu, c'est quand même ma langue maternelle, quoi, finalement. Enfin, bon.
Vous le parlez encore?
Non, moi je le parle, mais moi je l'ai même jamais réellement parlé, quoi. Je l'ai entendu. Par contre, j'ai beaucoup entendu des gens de ma génération, de mes parents, le parler. Mais à nous, ils s'adressaient en français, quoi. On ne parlait pas occitan. Mais entre eux, ouais, effectivement, ils le parlaient. Donc c'est pour ça que je parle aussi d'une langue maternelle, parce que c'était quand même. Moi, je vois dans les foires quand j'étais môme, finalement même. Il n'y a pas si longtemps, je crois que j'ai encore entendu parler occitan d'un effort. Quoi. Mais quand j'étais môme, oui, je vois les paysans autour de moi parler occitan. Quoi.
Pourquoi n'êtes-vous pas devenu paysan?
Alors déjà, non,
certains de vos films qui parlent de cela, ouais, comme d'une quête.
Je pense que ça m'a un peu tracassé à l'adolescence. J'ai eu une période où je voulais faire berger, quoi, voilà. Non, moi je pense que déjà, je m'attache vachement aux animaux, quoi. Déjà l'idée de voir des animaux que j'ai élevés partir à l'abattoir, ça me serait impossible, quoi, voilà. Je me rappelle d'ailleurs, même à ma mère, c'était très dur pour elle. Quand elle avait une vache qui était trop vieille, qui donnait plus de lait, qui partait, c'était très très dur pour elle, quoi. J'aurais pas pu, quoi. Non, puis c'est vachement dur comme métier, quoi. Hein. C'est vachement dur, c'est très, on est assigné à demeure, quoi. On peut pas, enfin, ça empêche beaucoup de bouger. J'étais vachement trop un rabalaire et pour être paysan, quoi, voilà.
Ça veut dire quoi, un rabalaire?
C'est un mec qui traîne, c'est quelqu'un qui traîne, qui est jamais chez lui, qui est toujours un peu à droite, à gauche, toujours chez les voisins. Ça peut aussi être un vagabond, ça peut aussi être, ouais, ça pourrait être aussi un voyageur, quoi, voilà. Mais c'était vachement plus au sens de mec qui traîne à droite, à gauche, quoi. Donc un terme assez péjoratif, ouais.
Alors, il y a beaucoup d'érotisme à l'intérieur de votre livre. Certains pourront peut-être dire qu'il y a même de la pornographie. En tout cas, c'est plus de l'érotisme que de la pornographie, je crois. En tout cas, c'est l'histoire d'un mec qui vraiment a envie de faire l'amour.
Ah oui, 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 il est quand même beaucoup mu par ça, oui. Oui, oui, oui.
Et pour faire l'amour, il y a un instrument érotique par-dessus tout. Et ça sert aussi à penser, mais aussi à avoir envie de faire l'amour, c'est le vélo. Alors, je vais vous proposer un petit document sonore.
Avec le numéro 23, c'est Monty. Raymond Poulidor est sur la piste, ça a été une véritable explosion. On sort les klaxons, on a rien négligé ici. Et voici Raymond Poulidor qui termine à l'arraché, s'en allant sans doute vers une grande victoire contre la montre. Raymond qui s'est vidé sur la ligne là. On vient de s'en apercevoir. Vous voyez, on dit parfois que Raymond Poulidor ne sait pas se donner, mais quand il y a le sursaut de l'orgueil qui est en jeu, qui ajoute encore à ses qualités, là, il est véritablement un grand bonhomme.
Hein. Oui, oui.
Alors déjà, la langue des courses et du Tour de France, Poulidor, il s'est vidé, vient de dire peut-être Robert Chapatte.
Oui, ça ressemble à Robert
Chapatte. Ça ressemble à la voix de Robert Chapatte. Donc voilà des spécialistes qui parlent d'un sujet sérieux. Donc ce mot vidé est très important, et dans votre livre, Alain Guiraudy, lui, il monte en selle, bon, il va vers un col, certes il monte, mais il a vraiment besoin d'être sur son vélo, parce que sur un vélo, tout peut arriver, et surtout, le désir de vivre, l'intensité de vivre, la découverte des paysages, et aussi l'appétit du monde.
Oui, alors là, j'ai du mal à rebondir derrière votre
non, mais c'est dans votre vie aussi.
C'est bien dit.
Le vélo, ben moi je trouve que déjà c'est un super moyen de découverte du monde, effectivement, c'est le bon rythme, on voit, c'est le bon rythme, c'est moins chiant que la marche à pied. Dans une journée, on peut faire 100 km quand on est un peu entraîné, même très facilement. Je sais pas, on est à la bonne hauteur, quoi. Voilà, on est plus haut que dans une voiture. Il y a quelque chose de très c'est vivifiant, quoi. Quand il fait très chaud, on prend de l'air. C'est un exercice physique, effectivement. Oui, je pense qu'il y a quand même de la sublimation sexuelle, ouais, dans le vélo, quoi. Oui, effectivement. Voilà. Non, j'ai pas. C'est marrant parce que bon, moi, je suis très attaché comme ça au vélo, quoi, à aller grimper des cols ou à faire des bornes, quoi, dans des vallées désertes. Mais j'ai pas. C'est marrant parce que j'ai pas grand-chose à raconter non plus sur le vélo, quoi.
Parce que vous en faites trop. Vous ne pensez même pas que vous êtes sur un vélo.
Ouais, enfin si, là, quand même, maintenant, j'y pense, je trouve, quoi. Ça commence à devenir dur, quoi.
On dit aussi, dans la langue française, avoir un petit vélo dans la tête.
C'est pas mal, ouais. Ouais, le vélo dans la tête, ouais. Ouais. Il a vraiment un petit vélo dans la tête.
Hein. Je suis d'accord avec vous. Quand on lit votre bouquin, je pense qu'il a un grand vélo dans la tête.
Ouais, un grand vélo dans la tête, ouais. Ouais.
Alors, je vous propose d'écouter un extrait d'un de vos films qui vous a rendu célèbre, quoique déjà avec le premier, vous avez été tout de suite célébré et reconnu, y compris et surtout par Jean-Luc Godard qui a dit que vous aviez fait un film le plus grand de l'année et que vous étiez un génie. C'est peut-être vrai d'ailleurs. Mais je vous propose d'écouter un extrait de votre second film, je crois. C'est L'Inconnu du lac.
Je suis vachement tracassé par cette histoire avec Michel.
Fais gaffe, il n'y a pas que le cul dans la vie.
Mais c'est pas que le cul avec lui.
Bah, si vous passez pas vos nuits ensemble, c'est quoi? J'en sais quelque chose. Tu vois, il y a même pas deux ans, je crois que ça m'intéressait carrément pas d'avoir des rapports autres que sexuels. L'histoire d'amitié, ça me gonflait, je trouvais ça sans intérêt. Maintenant, tu peux pas savoir comme ça te fait chier de pas te voir pendant un jour. Quand je te vois arriver là-bas, j'ai le cœur qui se serre, comme quand je suis amoureux. Tu vois un peu? Et pourtant, j'ai pas du tout envie de coucher avec toi. Toi aussi, t'as envie d'être avec moi. C'est pas pour me baiser, j'imagine.
Non.
Dormir seul, bouffer seul, tout faire tout seul, ça commence à devenir pénible. Et tu vois, je me demande si on est obligé de baiser avec quelqu'un pour dormir avec.
Enfin, si t'as envie de dormir avec quelqu'un, c'est quelque part t'as envie de lui.
Mais c'est une autre envie. Mais ton mec, quelque part, il a pas tort quand il me fait sa crise de jalousie. Il a bien senti ce qui se passait. Ouais, il est venu me voir tout à l'heure. Mais ça va, c'était moi qui étais avec toi dans le bois mardi soir. Il avait un drôle de truc dans l'œil. Ok, il est beau, il est bronzé, il est musclé, il est bien foutu. Tu t'en rends peut-être pas compte tellement t'es amoureux, mais je te jure qu'il est bizarre. D'ailleurs, l'inspecteur pose beaucoup de questions sur vous deux. À ta place, j'aurais peur.
Nous venons d'entendre un extrait de votre film qui a été diffusé en 2013, L'Inconnu du lac. Le premier s'intitulait « Ce vieux rêve qui bouge » et puis il y a eu « Rester vertical ». Et je crois que dans quelques mois, votre nouveau film, le quatrième long métrage, sortira sur les écrans, Alain Guiraudy. Mais pour en revenir à cet extrait que nous venons d'écouter de ce film merveilleux dans tous les sens du terme, parce qu'on ne sait pas, nous spectateurs, si on est dans un registre onirique, symbolique ou hyper réaliste. Et d'ailleurs, dans votre écriture aussi, on ne sait pas dans quel registre on se trouve. Et c'est très bien la perdition et l'absence de revendication d'un registre particulier. Mais il y a aussi cette thématique obsédante à l'intérieur de votre travail d'écriture, que ce soit pour les scénarios ou que ce soit pour les romans. C'est effectivement la croyance, je crois, innocente, que c'est dans le rapport sexuel qu'on peut trouver la vérité d'un être et qu'on peut comprendre qui est un autre.
Alors oui, bah disons que bon, déjà c'est un rapport qui rapproche énormément, oui effectivement, où on est, oui où, effectivement il y a de ça quoi. En même temps, je pense que c'est quelque chose moi que j'ai longtemps cru et en même temps, enfin que j'ai longtemps pensé, que je pense encore quelque part. Mais en même temps, je cherche aussi surtout et d'ailleurs dans l'inconnu du lac, ça commence avec l'inconnu du lac cette idée, mais peut-être avec ce vieux rêve qui bouge comme ça avait commencé cette idée que ça suffit pas quoi, que quand même il y a quelque chose à chercher, que moi je cherche un peu et dans Rabelais aussi quoi, d'ailleurs ça se termine sur cette note là beaucoup, l'idée de chercher à comment accomplir son désir autrement ou que dans le sexe quoi. Finalement le sexe reste aussi quelque chose de très insatisfaisant quoi, quand même au bout du compte quoi, la jouissance fondamentalement et oui reste insatisfaisant et en tout cas si c'est satisfaisant de toute façon derrière il faut quand même trouver d'autres rêves à poursuivre, d'autres objets de désir quoi, il y a quelque chose de je sais pas si le désir en fait doit s'assouvir, s'il doit s'accomplir quoi, si c'est si souhaitable que ça quoi, voilà. Donc
la douceur de la reconnaissance et... après l'amour ou sans faire l'amour, mais avec oui. Amour. Ça, c'est un thème qui revient beaucoup dans le dernier, Rabalaïre, oh, oui. Mais c'est un thème qui revient aussi beaucoup dans l'avant-dernier film, Rester vertical, mais aussi dans L'Inconnu du lac. D'ailleurs, on vient de l'entendre. Hein. Et il lui fait remarquer que c'est pas parce qu'on veut faire l'amour qu'on va forcément dormir ensemble et que dormir avec quelqu'un d'autre, c'est pas forcément parce que on a envie de faire l'amour avec lui.
Ouais, tout à fait, ouais.
Et dans Rabat et Léhiré, il y a beaucoup de scènes comme ça.
Oh bah,
le narrateur, il cherche à dormir avec amour, sans forcément faire l'amour avec les personnes qu'il rencontre, que ce soit des hommes ou des femmes.
Complètement. Enfin, je pense que dans Rabaer, c'est surtout incarné par le curé, cette idée-là, quoi. L'idée de le curé qui vraiment dort avec tous les paroissiens qui en émettent le désir, quoi. Voilà. Ou paroissiennes qui se sentent seules suite à la perte d'un être aimé, de leur mari, de leur femme, qui ont envie de, et donc lui, effectivement, est dans cette idée-là. Et le narrateur je pense que, effectivement, lui, il a trouvé quelque chose, un début de réponse, quand même, à cette idée de comment est-ce qu'on peut être bien ensemble, et on peut avoir envie d'aimer quelqu'un. Je pense que c'est d'ailleurs la vraie histoire d'amour du film, elle est là, quoi, du roman.
Oui, c'est un beau lapsus. Mais de toutes les façons, quand vous n'écrivez pas, vous filmez, quand vous ne filmez pas, vous écrivez, c'est tout le temps... En marche, votre imaginaire.
Ouais, je passe plus de temps à écrire qu'à filmer, quand même, quoi. Mais c'est marrant, je pense que je suis très, très pris par le cinéma et je continue à parler de films en parlant de Rabaer.
Peut-être donc, parce que vous voyez ce que vous écrivez aussi. Ouais. Quand vous écrivez un roman, vous avez peut-être les images. Parce que vous n'adaptez pas vos livres en film.
Ben, j'ai beaucoup fait ça. C'est-à-dire que j'ai beaucoup écrit des scénarios, j'ai beaucoup écrit des romans. J'ai commencé des romans, ou écrit des romans. Et au bout d'un moment, je me suis dit, merde, c'est pas un roman, en fait, c'est un scénario. Parce que je pense que je les voyais. La différence, je pense, avec les deux romans que j'ai publiés, ça se situe, je pense, ailleurs. C'est-à-dire, c'est un peu comme si j'arrivais vraiment à livrer mon inconscient. Il y a un rapport à l'inconscient dans la littérature que j'ai pas du tout dans le cinéma. Je pense que dans le cinéma, de toute façon, il y a trop de filtres. C'est-à-dire que, bon, ok, on écrit un scénario, mais c'est une fois qu'on a écrit le scénario, les ennuis commencent. Faut mettre en scène, faut aller confronter son film à la réalité. On travaille avec des gens et qui fait que ça laisse plus trop de place à l'inconscient brut de décoffrage. Je trouve que la littérature, ben voilà, il y a entre moi et le roman, il y a quoi comme filtre? Il y a un ordinateur, quoi, maintenant, quoi. Mais finalement, je m'y livre corps et âme. J'avais l'habitude de dire que dans les films, on met des choses qu'on raconterait pas à son meilleur pote. Je pense que dans les films, c'est faux. On met que des trucs qu'on raconterait un peu à tout le monde, quoi. Dans les romans, je pense qu'on met vraiment des trucs qu'on raconterait pas à ses meilleurs potes, quoi. Voilà, et donc, effectivement, c'est sans... Ouais, il y a quelque chose comme ça, sans filtre.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical d'Alain Guiraudy, Way Out de Last Train.
Eventually pull me down. There was a time you were the way out. I can remind when the curtains became a wall. This day is gone, just like before. I'm
On ne peut pas dire qu'à partir du moment où l'on supprime toute espèce de but, il puisse y avoir même rien. Rien, c'est déjà trop dire, puisqu'on s'en fout. Il ne peut pas y avoir
ça consiste par conséquent,
un objet de pensée qui s'appelle rien.
Ça consiste par conséquent à accueillir ce qui est en vous dans l'instant.
Ça consiste à supprimer, en somme, ce que des millénaires d'humanité ont accumulé d'ordre dans la pensée.
Oui, mais au profit de quoi ?
Au profit de ce désordre de la pensée qui me plaît et qui me paraît, somme toute, contrevenir à une frustration générale. Dans le désordre de la pensée naît, par exemple, la poésie. Je ne dis pas que c'est la poésie que j'ai voulu désigner tout à l'heure, mais tout de même, c'est une indication. Il y a quelque chose de profondément poétique dans toute espèce de désordre de la pensée, ou des attitudes mieux que de la pensée.
Désordre par rapport à quel ordre ? Parce que d'un autre côté, il n'y a pas de désordre.
De l'ordre dont je parlais, très simple, c'est l'ordre que l'on est bien obligé d'avoir quand on veut faire une valise pour prendre le chemin de fer.
Oui, alors la poésie est l'ordre inverse de la valise, mais exactement. C'est aussi un ordre.
Est-ce que vous avez une façon spécialement poétique de faire votre valise, c'est-à-dire d'entasser les objets à l'intérieur pêle-mêle ?
Ah non, pas du tout, j'ai beaucoup d'ordre quand je fais la valise.
Nous venons d'entendre une archive de l'Institut National de l'Audiovisuel qui date du 15 juillet 1951. C'était Georges Bataille qui s'exprimait à propos du désordre dans la pensée et il était interrogé par Emmanuel Berle et Maurice Clavel. Le désordre dans la pensée, peut-être que ça caractérise votre volonté de faire de l'art, Alain Giraudy. Pas forcément dans vos films, parce que ils sont très ordonnés, mais ils sont aussi poétiques. Et Georges Bataille vient de dire que du désordre naît la poésie. Mais en tout cas, dans vos romans, il y a une assomption du désordre.
Oui,
comme force vitale et élan poétique aussi, car votre écriture est aussi poétique. Traversée de flux.
Alors, disons que après c'est toujours pareil. C'est est-ce que j'ai un peu quand même l'impression de justement dans ce roman d'avoir un peu refusé la poésie, mais si ça donne quelque chose de poétique, tant mieux quoi. Mais disons dès que j'avais torché une phrase qui tombait bien, qui était bien foutue et tout, j'avais tendance à l'enlever quoi. Voilà, parce que j'aime bien la définition de la poésie de Bataille. Je savais pas qui, j'avais jamais entendu ça, cette idée. Que le désordre de la pensée donnait de la poésie quoi. Alors là l'idée me plaît beaucoup quoi, hein, effectivement, parce que si la poésie peut avoir une utilité, effectivement c'est quand même ça pourrait être de représenter effectivement ou de restituer, d'essayer de restituer quelque chose de notre kaléidoscope intérieur, de tout ce, j'ai pas d'autre terme que bordel, je suis désolé, mais ce bordel qui nous entoure et qui nous anime quoi. Il y a quelque chose qui va de l'infiniment petit au cosmos quoi, voilà. Donc à ce sens-là, oui, je pense que je suis assez je suis un écrivain désordonné et justement la littérature me donne l'occasion, me donne la liberté de restituer ce désordre quoi, voilà, de d'être dans ce désordre, de m'agiter dans ce désordre et même de m'y complaire. Alors que le cinéma quand même, il y a un moment, c'est pas au scénario, si c'est pas au tournage, c'est de toute façon au montage, faut mettre de l'ordre quoi. C'est terrible. Et alors je sais pas, après je suis très admiratif de cinéastes qui justement arrivent quand même dans le cinéma à garder tout ce merdier quoi, ce désordre. Ben, oui, effectivement je peux que penser à Godard quoi, mais il y a Tarkovsky qui a fait des films très 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 désordonnés quoi, qui arrivait à embrasser un milliard de choses quoi, et d'émotions et de sentiments quoi. Mais moi il se trouve que je sais pas comment je me débrouille, j'y arrive pas quoi, voilà, faut quand même que j'ordonne quoi les choses, voilà, dans le cinéma.
Georges Bataille sacralisait l'éros, et vous, Certains ont dit de vous que vous faisiez l'éloge de la pornographie.
Alors, sur la pornographie... alors, est-ce que je fais l'éloge de la pornographie? Ben, bon, d'une part, j'ai pas envie de refuser la pornographie, quoi. C'est aussi quelque chose qui existe. Il y a... et je sais plus qui disait ça, mais que finalement, la pornographie, c'était la vérification du bon fonctionnement des organes. Alors, moi, je pense qu'il y a effectivement des organes en fonctionnement, quoi, que ce soit dans les films ou dans... Enfin, et plus dans la littérature.
Le mot couille est répété à plusieurs reprises. Voilà, je n'ai pas compté, mais il y en a beaucoup.
Il y a quand même une base. Il y a des mots, autant les utiliser, quoi. Voilà, je pense que j'utilise testicule aussi, quand même, quoi. Il n'y a pas que couille non plus, voilà. Mais quand même, bon, voilà. Donc,
et la brigoule beaucoup.
La brigoule.
Qu'est-ce que la brigoule?
Bon, la brigoule, c'est un produit dopant. C'est une oignon, un dopant naturel, quoi. Voilà. Un mélange
de PO. Qui permet de faire quoi?
Un mélange de PO et de Viagra bio. Voilà. Et qui permet de faire.
Heureusement que c'est bio.
Heureusement que c'est bio, voilà. C'est une oignon.
Vous êtes bio aussi, y compris quand vous faites l'amour?
Alors, c'est quoi faire l'amour bio?
Ben, je sais pas.
Sans capote.
Vous me dites que la brigoule, c'est bio.
Ouais, moi, je suis assez bio. Ouais, je suis plus. Effectivement, je crois que je préfère l'agnol au Viagra. Ouais, effectivement, quoi. Surtout que le Viagra, il est mal à la tête, paraît-il, que ça fait pas tant de fait que ça. Quoi,
ah, paraît-il, voilà. Ça veut dire que vous n'avez pas encore essayé.
Je l'ai pas essayé, moi. Mais il y a des gens qui sur l'inconnu du lac, on a dû avoir recours au Viagra. Et finalement, c'est les doublures qui en prenaient pour avoir des érections, les doublures des comédiens, et ils m'ont dit ouais, voilà, ça m'a fait mal à la tête, c'est tout ce que ça a fait, quoi. Donc ouais, dans ce sens-là, ouais, je suis plus bio. Et donc la brigoule, pour vous résumer les effets, quand même, ouais, voilà, c'est un truc qui rend malin,
lucide. C'est très important, la brigoule, dans votre
livre. Et qui donne envie de faire l'amour, et qui donne envie et qui fait bander quand même aussi, quoi, voilà. Qui ne fait pas que donner envie, qui le permet. Mais aussi. J'étais parti sur cette histoire de pornographie. Donc voilà, il y a des organes en fonctionnement, et puis j'aime beaucoup l'idée de relier quand même les organes sexuels aux histoires d'amour, quoi. Voilà. Je veux dire, l'amour, c'est aussi ça. Ça n'est pas que, effectivement, des grandes envolées lyriques et des gens qui se serrent les uns contre les autres. C'est aussi des gens, c'est des morceaux de chair qui rentrent dans un autre morceau de chair, quoi. Pour citer Godard, quoi. Voilà. C'est quand même ça, quoi, l'amour aussi.
C'est pas seulement ça, à l'intérieur de votre livre. On a l'impression qu'il y a une sorte de désenchantement qui plane sur la totalité de ce livre. C'est une thématique récurrente, alors désenchantement qui fait que vous arrivez à un âge pas encore certain, mais enfin, vous avez quitté l'adolescence et vous êtes au milieu de l'âge adulte. On le sent à travers la description de votre narrateur. Et il y a des pages très belles qui concernent le désenchantement idéologique. Vous faites le portrait, à travers votre alter ego, d'un jeune homme qui était épris d'idéaux et qui croyait à des possibilités de mieux vivre avec les autres, dans la fraternité, l'égalité, la possibilité de s'exprimer chacun. Et puis... le réel lui a été opposé et rien ne marche.
Oui, je pense que de toute façon là, le désenchantement politique va aussi avec le désenchantement humain, quoi. Je sais pas, il y a aussi une
il est fatigué, votre héros.
Ouais, il est super fatigué, ouais. Il y a quelque chose de dans le rapport humain qui ne lui convient plus. Il veut changer d'horizon. Il voit plus ses amis. Hein. C'est pas juste les gens du cercle politique dans lequel il avait coutume de militer.
Il a cru au communisme.
Ouais. Oh, puis même, je pense qu'il y croit. Je pense qu'il
a cru à Mélenchon aussi.
Je crois qu'il y croit toujours, quoi. Et je pense que c'est aussi quelqu'un qui continue à aller voter parce qu'il pense que ça sert à quelque chose, que c'est utile. Mais il n'a plus l'énergie, il n'a plus envie d'aller. Et puis, je pense que c'est une question d'énergie ou de. C'est pas une question. C'est vraiment une question d'énergie. Cette idée de devoir aller défendre ses arguments, quoi. Je pense que déjà, d'une part, il est trop dans le doute, quoi, par rapport à une période où il était. il était, oh, il avait au moins 2-3 certitudes, quoi. Il est un peu plus dans le doute, il a beaucoup de mal à s'exprimer en public, beaucoup de mal, enfin, pas du mal à prendre la parole, mais du mal à se faire comprendre, hein, et à être sûr d'être bien compris par son entourage. Hein, voilà. Et politiquement, c'est aussi ça qu'il a un peu miné, quoi. Et je pense que ça relève vraiment, je dirais que ça relève vraiment d'une flemme existentielle, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là chez lui, quoi.
Là, mais cette flemme existentielle qui lui tombe dessus progressivement à l'intérieur de l'écriture de votre livre, est-ce que elle s'apparente peut-être un désir de s'effacer du monde, voire de disparaître complètement, parce qu'on voit bien que votre héros ou votre anti-héros, il est de plus en plus désireux d'être tout seul.
Il s'en va, oui. Ouais.
Il disparaît dans tous les sens du terme.
Alors il disparaît dans un monde qui finalement il s'est un peu inventé lui, hein, effectivement. Ouais, mais il y a de ça, de la disparition sociale, quoi. Ouais.
Parlons des mots et des termes que vous employez. On parlait de vélo tout à l'heure. Votre héros veut essayer de franchir un col. Celui-ci s'appelle le col mort.
Le col de l'homme mort.
Il y a aussi d'étranges personnages qui portent des noms comme celui de Gabin, par exemple. D'où vous vient tout cet imaginaire de mots qui résonnent en nous de manière très mystérieuse?
Alors bon, déjà le col de l'homme mort existe. Oui, ça existe réellement. Et puis il y en a pas qu'un seul, il y en a plusieurs en France. Enfin, en tout cas dans le sud de la France, moi j'en connais déjà 3. Voilà. Et il y en a un que je connais qui est pas très.
Vous
loin.
Les avez tous montés à vélo?
Non. Et puis c'est pas des cols très durs. Hein. Il y en a un, c'est près de Vaison-la-Romaine. C'est pas des cols très durs. Ça a rien à voir avec le Galibier ou le Tourmalet, quoi. Et le col de l'homme mort duquel je parle, ouais, je l'ai monté, ouais, un vélo. Ouais. Mais bon, il est vraiment facile, celui-là. Hein. Ça s'appelle un col parce qu'effectivement, en haut d'une montagne, on bascule de l'autre côté, quoi. Mais c'est marrant parce que c'est un endroit qui était très très mystérieux que j'avais mythifié. Moi, ça faisait très, je voyais ça sur une carte. C'est à 200 ou 300 kilomètres de chez moi. Mais allez, 200. Et je me disais, il faut que j'aille voir ce col de l'homme mort. Mais ça faisait longtemps que je me le disais. Quoi.
Donc c'est voilà. le nom qui vous a attiré.
Oh ouais, le nom, oui, c'est quand même un nom de légende, quoi. C'était super beau. Et puis à partir de là, ben je me suis fait tout un monde. De toute façon, j'ai l'impression quand même, enfin, ce roman rebrasse un peu des thèmes et des thématiques et des mondes que je brasse depuis que j'écris, quoi.
Je vais vous proposer d'écouter la voix de Jean-Luc Godard, qui a été le premier à vous reconnaître. C'était en tant que cinéaste. Il va parler de ce que ça veut dire pour lui le bon cinéma. Et c'était au moment de la sortie de son film, magnifique d'ailleurs, Adieu au langage. C'est une archivina du 21 mai 2014 et c'était au micro de Patrick Cohen.
Le bon cinéma a toujours annoncé en avance, sous une forme métaphorique peut-être, les catastrophes. Petite ou grande, qu'est-ce qu'elle soit. C'est le cinéma qui l'a annoncé. Et avant son invention, c'était la musique, la grande musique. Les écrivains aussi. Les écrivains ont décrit quasiment dès 1917 toutes les erreurs de la révolution russe à venir. Pour la Chine, ça a pris un peu plus de temps qu'on découvre toutes les fantaisies atroces de Mao Tse-tung, si vous voulez. Moi-même, j'étais enthousiaste du petit livre rouge ou comme ça. C'était plus ponctuel contre le dogmatisme de la CGT ou du Parti communiste français ou comme ça. Mais sinon...
Êtes-vous d'accord sur cette idée que vient d'énoncer Jean-Luc Godard, Alain Guiraudy, que les cinéastes pressentent toujours et disent avant tout le monde la catastrophe?
Non, pas avant tout le monde. Je pense pas que les cinéastes en soient. Non, moi, je crois pas qu'on soit en avance sur notre temps, quoi. Ça, c'est. Je pense que la catastrophe à venir, elle est. je pense qu'elle est plus effectivement évoquée depuis plus de temps par des écologistes que par des cinéastes, quoi. Voilà.
Mais vous y croyez à cette catastrophe annoncée par les écologistes? Ouais, on sent bien que votre anti-héros, votre personnage principal, il est animé par cette crainte-là qui l'empêche de respirer littéralement.
Oui. Lui, c'est un gros truc. Moi aussi, hein, c'est quand même la grosse angoisse du moment. Je pense même qu'en plus collectivement, je pense que tout le monde actuellement a conscience de ça, quoi. Enfin, une grande majorité de la population.
Les tutelles politiques, pas vraiment, hein.
Il y a les gens qui se disent de toute façon, moi, mon profit d'abord et puis on verra ensuite, mais grosso modo dans la plupart, après, je ne côtoie pas les hautes sphères, donc je sais pas trop où ils en sont là-dessus, mais quand même, moi je sens autour de moi quand même que tout le monde sent bien qu'il y a, alors on se mobilise pas, moi le premier finalement, je me mobilise pas à la hauteur de ce que je devrais me mobiliser pour enrayer ça, mais on sent bien quand même qu'il y a, un gros problème, quoi, enfin, qu'on va droit dans le mur, quoi. Et ça, je pense que il y a ça, dans la pensée collective, il y a ça, quoi, nécessairement.
Je voudrais qu'on termine cette émission, Alain Guiraudy, avec cette étrange manière que vous avez de faire de la littérature, c'est-à-dire de conduire vos lectrices et vos lecteurs jusqu'au point où vous voulez les emmener. Là, c'est dans les pages 1037 ou 1038 de votre livre, c'est-à-dire au pays des morts.
Alors ça, c'est le genre de truc. Moi, j'ai du mal à en parler. Ça, on est vraiment très. Je pense que c'est venu d'une façon très très directe et même inconsciente, quoi. Je pense qu'on est un peu à l'os de mon inconscient là quelque part, quoi. J'ai vraiment beaucoup de mal à en parler de ça, quoi. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'y passe? Il y a je pense que j'ai cherché un peu quelque chose au-delà, tout bêtement, au-delà de la vie, quoi. Et puis, bon, finalement, ça rejoint. Disons que si j'en parle, je sais que je vais complètement banaliser ça. On va se dire, l'autre, il a lu quelques bouquins de chamanisme, et ça y est, il a foutu ça dans son roman. Et c'est pas ça du tout, quoi. Voilà, j'aimerais. j'ai très, très peur déjà de banaliser mes films ou mes romans en parlant. Mais alors là, sur ce point-là.
Attention, vous avez raison. Comme ça, les personnes qui souhaitent savoir comment on vit au pays des morts vous liront.
Ou comment quelqu'un décide d'aller là-bas, quoi.
Volontairement.
Voilà, exactement.
Ouais. Et où l'amour existe.
Je sais pas si c'est ça l'amour, mais en tout cas, je trouve que c'est quelque chose de très beau, quoi. Voilà. Je sais pas si c'est ça vraiment l'amour, quoi.
En tout cas, merci beaucoup Alain Guiraudy. Je vais essayer de bien dire le titre de votre livre qui sort ces jours-ci aux éditions PEL. Vous allez me corriger. Rabat l'aïre.
C'est pas mal, ouais. Non, c'est bien, ouais. Ouais, non, c'est bien. Non, mais après les gens
le prononcent. Alors redites-le bien à l'occitan.
Moi, je dis Rabat l'aïre. Voilà.
back and side to side. Oh, now the water's rise. Oh, the skies. Oh, now the water's rise. On the back for the last I die. Oh, the orange road. Oh, to the boat we go. Oh, take the orange road. Climb aboard for the gale wind blow.
C'est avec Pierce Faccini que nous allons nous quitter ce soir. Merci à Vincent Godard qui était à la régie technique ce soir. Merci à Céline Villegas, Élodie Royer, Iris Vertanassian et merci à Jean-Baptiste Dibert pour ses conseils musicaux.